Bonjour Eric.
Bonjour Laurence.
Nous continuons notre série sur le transhumanisme, les sept études.
Oui, je vous remercie de m'inviter une nouvelle fois à partager auprès de vos auditeurs cette réflexion que nous engageons effectivement sur tous ces aspects qui touchent à l'être humain dans son milieu, à l'être humain dans son environnement, à l'être humain au milieu de ce système technique transhumaniste, comme vous le rappeliez précédemment. Eh bien, je suis ravi de répondre à votre invitation.
Eh bien, c'est avec plaisir, Eric. Et je vais me permettre de vous présenter.
Oui.
Vous travaillez pour un institut de sondage comme socio-économiste. Vous êtes enseignant dans une école d'ingénieurs. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui paraîtra à la rentrée 2018, La déconstruction de l'homme. En 2016 puis en 2017, vous aviez successivement abordé le thème du transhumanisme dans un DVD produit par Gospel Film. Puis celui des menaces que fait peser l'économie numérique sur notre monde. Dans le cadre de notre rendez-vous sur les sujets qui touchent à la création de Dieu, à la fois sur une approche scientifique, écologique ou sociale, vous souhaitiez approfondir l'un des aspects que nous avions déjà abordé avec vous, la révolution anthropologique. Aujourd'hui, je crois que vous souhaitiez revenir sur cette nouvelle idéologie qui combat en brèche les conceptions essentialistes relativement à l'homme et à la femme, telles que la Bible les définit.
C'est bien cela, et il s'agit d'approfondir l'approche. Pour bien comprendre de quoi s'agit-il, vous évoquiez les menaces, et bien quels sont les enjeux que pose finalement cette nouvelle anthropologie qui se dessine ?
En premier lieu, une question me paraît essentielle quand on parle de révolution anthropologique. Il importe en premier lieu de définir le terme d'anthropologie avant d'appréhender la dimension même de révolution. Au fond, la question est finalement simple. De quelle anthropologie s'agit-il, Eric ?
Oui, il fallait revenir à cette question qui me semble pertinente pour que nous ayons les mêmes approches en termes de vocabulaire et de comprendre ce que recouvre le terme anthropologie, qui est formé à partir de deux termes grecs, anthropos, ce qui signifie l'homme, donc toute la dimension morphologique, physique, l'évolution physique de l'homme, et logos, ce qui signifie la parole, le discours, le verbe. Et lorsque l'on parle d'anthropologie, eh bien cela se situe à la croisée à la fois des sciences humaines. Donc on va s'intéresser par exemple à la dimension de la psychologie, la géographie, l'homme dans son habitat, dans son milieu, et des sciences naturelles. Donc l'aspect physique et l'évolution physique pour ceux qui partageraient la dimension évolutive de l'être humain sur le plan physique.
Très bien, mais alors qu'en est-il de l'approche biblique de l'anthropologie, Eric ?
Alors, c'est une question qui me paraît effectivement essentielle en tant que chrétien, et pas seulement comme socio-économiste, de partager la vision des Écritures qui nous présente l'homme comme étant fait à l'image de Dieu, conçu comme une unité, l'homme est âme, corps et esprit. Il me semble d'ailleurs préalablement important de rappeler que nous croyons bien sûr à la dimension de la transcendance, mais un verbe créateur, il créa, et c'est la parole qui précède la matière, l'existence de la matière. Et ça me paraît comme extrêmement important de rappeler que dans l'anthropologie à laquelle nous croyons, il y a une dimension essentialiste qui consiste effectivement à penser que Dieu est le sujet qui a créé les cieux et la terre et qui a créé l'homme et la femme. Et puis nous sommes, en tant qu'hommes et femmes, conçus comme une même unité. Nous sommes âme, corps, esprit. Nous n'avons pas une âme, nous n'avons pas un corps, nous n'avons pas un esprit, mais nous sommes. Nous sommes corps, âme et esprit, dans une dimension d'entièreté. Nous sommes l'être entier. Voilà, l'esprit, l'âme et le corps, comme le dit l'apôtre Paul, dans le chapitre qu'il écrit aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23-24, c'est la première lettre aux Thessaloniciens. Donc l'homme est une même unité.
Le verset 23 indique que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors c'est intéressant de reciter les Écritures et de souligner le terme entier qui en grec signifie holos, donc qui a une dimension, une perspective holistique, qui ne dissocie pas la nature créée de l'homme en tant qu'être spirituel, mais aussi en tant qu'être biologique et également en tant qu'être qui est caractérisé par une âme. Donc l'homme, en quelque sorte, doit être vu dans cette perspective. Et il est intéressant de voir que la lecture des Écritures souligne notre nature pécheresse. Donc la nature pécheresse de l'homme s'hérite non seulement physiquement, mais également en regard de son être entier. Citons le psalmiste, psaume 51, verset 7, « Ma mère m'a conçu dans le péché ». Et puis dans Romains, chapitre 3, verset 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Alors, dans cette anthropologie biblique, la Bible nous rappelle également que l'homme possède une composante spirituelle. Il est esprit. Il apparaît comme un être spirituel, capable d'être également rempli par l'Esprit de Dieu. Cette référence, nous la trouvons dans le livre d'Exode, chapitre 31, verset 3. Donc on peut peut-être le rappeler.
Oui, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages.
Oui, alors comme je le rappelais précédemment, l'anthropologie biblique est ancrée dans une dimension essentialiste. Et nous formons un seul être, une personne qui est faite à l'image de Dieu. Et dans cette dimension essentialiste, la femme est également issue de la chair de l'homme, à la fois parfaitement semblable, os de mes os, chair de ma chair. Donc c'est ce que nous rappelle le texte de Genèse 2:23. Donc il y a une égalité de dignité entre l'homme et la femme, puisque la femme est totalement semblable, chair de la chair, os de mes os, mais complémentaire. Complémentaire parce que Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Dans Genèse 2:18, la femme a été créée également à cause de l'homme, nous rappelle l'apôtre Paul quand il écrit aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 9. Alors, selon cette conception biblique, les hommes et les femmes diffèrent par essence. La nature sexuée homme et femme ne détermine cependant pas les fonctions d'ordre physiologique. La nature sexuée est également une identité. Ça, c'est un point important. Puisque je rejoins la conception essentialiste, une identité a une influence sur les rôles que nous allons, nous, hommes et femmes, jouer respectivement dans cette dimension relationnelle et sociale, nous complétant réciproquement et non nous nous opposant. Donc ainsi, entre les hommes et femmes, il y a bien une notion d'égalité quant à notre nature commune et une notion de complémentarité quant à la fonction. Voilà ce que l'on peut dire de l'anthropologie biblique.
Alors, cette conception biblique est-elle partagée de nos jours ?
Le moins qu'on puisse dire, elle ne l'est pas. Et nous assistons bel et bien, de nos jours, à une tentative de déconstruction de la vision essentialiste, de la vision donc biblique. L'anthropologie biblique est une anthropologie résolument holistique, comme je l'ai décrit précédemment, l'être entier. Essentialiste parce que c'est la parole qui précède la création, qui précède la création de l'homme et de la femme, et nous avons en quelque sorte reçu les marqueurs de Dieu en nous. De fait, nous sommes invités dans cette anthropologie chrétienne à respecter la dimension complète qui définit l'homme dans cette vision de la transcendance d'un Dieu créateur qui a fait l'homme et la femme. Et donc, effectivement, il y a une forme d'opposition et le contraire, finalement, de l'essentialisme, c'est le nominalisme, qui est une thèse, qui est une doctrine de pensée qui réduit, qui dit que finalement, les concepts que l'on utilise, les idées que l'on utilise pour qualifier le monde ne sont pas réels, n'ont pas de réalité en soi, voilà, en dehors de lui. Donc ça, c'est ce qui va s'opposer à la vision essentialiste qui postule, en revanche, l'existence d'une essence qui précède l'existence.
D'accord.
On peut ajouter qu'au-delà, je dirais, de cette perspective nominaliste qui réfute finalement l'essence, il y a la thèse matérialiste qui indique que tout ce qui existe est une manifestation physique. Tout phénomène est le résultat d'interactions matérielle. Et vous noterez que dans cette vision et cette perspective matérialiste, il y a la négation de l'esprit. Donc on réfute que la parole soit créatrice. Et puis, il y a la thèse constructiviste, qui est le pendant, finalement, de la thèse matérialiste. La thèse constructiviste consiste à dire que la nature et la condition humaine sont perverties du fait des contingences sociales qui ont déterminé les comportements, gangrénées en quelque sorte, les attitudes, infectent toute leur vie sociale. Bien, c'est la négation, finalement, du péché. Et puis, il y a une troisième, qui est en quelque sorte, découle de la thèse constructiviste, qui sont les idéologies du genre, qui indiquent que tout ce qui serait susceptible de nous définir relève de déterminants sociaux et culturels. De fait, les caractéristiques ou les propriétés psychologiques qui nous déterminent comme hommes ou femmes n'ont pas de sens en soi. C'est donc la négation de la différence. Mmh. Et puis, le transhumanisme qui rêve, alors là, de décoder le cerveau dans le cadre d'une vision purement matérialiste pour éventuellement réimplanter ce dernier dans un autre corps. Donc c'est une dissociation de l'être. Oui. Alors que la vision essentialiste et holiste, qui est tout simplement d'unir et non pas de distinguer, de différencier, c'est l'inverse qui est proposé par la démarche ou la doctrine transhumaniste. Donc ça, c'est important aussi de l'expliquer et d'être plus profond, je dirais, que par rapport à une description comme je le produis là. C'est de dire que lorsque je souffre dans mon corps, cela interagit avec mon âme, cela interagit également avec mon esprit. Lorsque je me sens épuisé, évidemment, mon esprit interagit avec ce corps épuisé. Donc on ne peut pas dissocier les êtres.
Oui, si je peux me permettre, on peut dire que le transhumanisme, c'est un grand jeu de l'ego.
C'est un grand jeu de l'ego et je vous rejoins, parce qu'effectivement, on transforme l'être humain en espèce de sujet d'individu.
Que se cache-t-il donc derrière les termes étranges de la révolution anthropologique ?
Eh bien, pour répondre à votre question, dans son livre « La nouvelle idéologie dominante », le sociologue Shmuel Trigano rend compte de cette reconsidération métaphysique, anthropologique, du vivant, de l'humain, qui aboutit nécessairement à la redéfinition de la personne post-humaine. Il parle de post-humanisme, non plus dans son essence, mais dans son incarnation individuelle. Donc en fait, c'est une remise en question de l'incarnation, du verbe en nous, du verbe qui nous a créés. Et le manifeste transhumaniste, résumé par ces mots, nous souhaitons, j'évoque la pensée transhumaniste et ce que dit la pensée transhumaniste qui souligne qu'elle souhaite s'épanouir en transcendant nos limites biologiques actuelles. Donc c'est le contre-pied de l'anthropologie biblique qui définit une nouvelle conception de fait de l'homme et de son corps. Donc nous sommes dans une révolution culturelle qui se prépare dans les esprits. Et il ne s'agit pas d'une révolution génétique, mais d'une révolution anthropologique dans sa dimension éducative afin de préparer les esprits aux mutations techniques à venir. Donc on est dans une dimension éducative, oui. C'est-à-dire qu'on prépare, on modifie les mentalités, on conditionne en quelque sorte nos mentalités à accepter les chamboulements qui se préparent sur le plan de ce que nous avions comme conception culturelle à propos de l'homme et de la femme. Ouais. Alors les technosciences et les biotechnologies, dans un futur proche, vont prendre le prolongement de cette transformation culturelle pour changer la condition humaine, pour satisfaire les fantasmes de ces nouvelles idéologies. Et l'homme ainsi veut infléchir l'avenir de la civilisation humaine en la réinventant, en provoquant ce qu'on appelle un effet réversif, pour ne plus subir les effets et les aléas des déterminismes biologiques. Et ce, via l'émergence d'un nouvel eugénisme social. Les technosciences feront ce que la nature, par elle-même, n'a pas été capable de proposer, en intervenant dans un futur proche, directement sur le patrimoine génétique humain, soit en vue de le réparer, de le corriger, de sélectionner. Donc on est dans une dimension quasi eugéniste, oui. Et voire de résoudre.
Vous parlez donc, Eric, de révolution culturelle.
Absolument.
À propos de cette nouvelle anthropologie qui serait donc d'abord, selon vous, de dimension idéologique.
Et c'est bien ça.
C'est bien ça.
C'est bien ça. Et une des traductions de cette nouvelle idéologie, elle est issue des études sur le genre, comme l'idéologie transhumaniste, qui veulent en quelque sorte défier l'ordre dans la création, promettre à l'homme de l'arracher de ses stéréotypes culturels, d'idéaliser et d'améliorer l'homme en le modifiant, et surtout d'en finir demain avec la finitude qui l'encercle. Donc il faut sortir l'homme de son corps. Vous voyez, quand j'insistais précédemment dans ce début d'interview sur la dimension de l'unité, ce qui fait l'homme en tant que corps, en tant qu'esprit, en tant qu'âme, où je ne dissociais pas, je ne distinguais pas, eh bien, dans la perspective transhumaniste, il s'agit bien de dissocier. Dans les études du genre, c'est bien de dire « je ne suis pas mon corps ». D'accord ? La femme est un homme et n'importe quel homme. Donc, elle n'est pas son corps. C'est un peu, enfin, je provoque et peut-être j'exagère, mais la volonté, c'est bien ça, c'est de dissocier l'être. C'est toute la dimension idéologique qui est ici soulignée. Alors, dans un monde virtuel qui tente de déconnecter, de déraciner le corps du réel, le monde d'aujourd'hui envahi par la technicité se plaît à nous faire oublier que l'être est aussi inscrit dans la dimension biologique et de fait dans cette composante. Et les idéologies orientent ainsi les recherches scientifiques qui seront demain engagées par les hommes. Alors dans cette révolution idéologique, il s'agit de toucher à l'identité même de l'esprit humain, de dissocier, comme je l'indiquais précédemment, l'âme et le corps, de véritablement déconstruire, de mettre les réalités biologiques qui différencient le masculin et le féminin, qui sont propres à interagir, également sur les caractères et la nature différenciée des hommes et des femmes. Parce qu'on nie qu'effectivement, sur le plan biologique, eh bien, la nature même de l'être peut être impactée par sa composition, en quelque sorte. Vous voyez, l'homme a davantage de testostérone par rapport à la femme, et ça joue sur la virilité humaine, et ça joue donc sur le caractère de l'homme. Donc ça, c'est un point qui est finalement nié dans la conception idéologique issue des études sur le genre.
Mais alors, il ne s'agit pas encore d'une mutation génétique.
Non.
Mais culturelle.
Absolument.
Dans un premier temps.
Absolument.
Mais cette mutation ou révolution anthropologique, est-ce qu'elle ne concerne pas en premier lieu le rapport à l'altérité?
Oui.
Au corps, aux autres et à soi.
Tout à fait. Et cette nouvelle anthropologie, à nouveau, et j'insiste, percute l'idée chrétienne d'un Dieu souverain qui a créé le premier couple humain, comme vous l'indiquiez. Nous allons y revenir dans cette dimension d'altérité, comme l'essence même d'une relation complémentaire. Et la première mutation, c'est l'être humain lui-même. Il s'agit d'une mutation, comme nous l'avions souligné précédemment, non pas génétique, mais culturelle. Une mutation qui concerne ce rapport à l'altérité, je vais développer, je vais en dire un mot, au corps, aux autres, à soi. Sur le plan de l'altérité, au prétexte de l'égalité homme-femme, c'est l'idée même de complémentarité, de différence sexuée qui est remise en question. L'altérité, c'est pas l'alter ego. L'altérité, c'est l'autre différent de soi. Ouais. Et la femme, par essence, est différente de l'homme. Elle est en égalité, en dignité, mais elle est complémentaire. Et le refus de cette différence gomme finalement cette notion d'altérité. L'autre aspect, c'est le rapport au corps, ces notions de finitude, de l'homme déchu qui sont progressivement et proprement contestées dans une époque matérialiste qui est résolument tournée vers l'idée du progrès et du dépassement de soi. Le rapport aux autres, la notion même de prochain, elle ne saurait faire sens demain chez les transhumanistes puisque l'idée même de compassion et de charité est supplantée par l'idée d'un État ou d'une collectivité, ce qu'on appelle une communauté égregore, comme une collectivité universelle bienveillante. Et puis le rapport à soi, c'est dans l'interaction aux autres que nous nous construisons. Or, ce monde virtuel ne construit plus les interactions, mais des interconnexions. On n'est plus dans une dimension relationnelle, on se trouve sur des schémas qui n'ont rien à voir avec la rencontre en face à face, la relation avec le prochain.
Alors, dans ces cas-là, quelle est la source, selon vous, ou les sources de ce changement de paradigme concernant cette dimension anthropologique ?
Alors, tous ces changements, en réalité, puisqu'ils sont culturels et sociaux, ont un même dénominateur, ce qu'on appelle la déconstruction ontologique. Ça peut paraître un peu savant, mais on va faire simple. En fait, c'est la déconstruction de l'être humain, ce que les philosophes appelaient ainsi. Et c'est une déconstruction militante. En réalité, une déconstruction idéologique qui est du même ordre que la tentative darwinienne de remettre en cause la dimension même de la création. Et cette dissociation quasi propagandiste de l'entièreté, donc de l'être humain défini comme une même unité, elle résulte de la prétention donc à nier ce corps fini, à contester l'enfermement en quelque sorte, et à prétendre à une forme d'autosuffisance singulière jusqu'à l'affranchissement de notre corps de toute représentation culturelle et sociale. C'est le déni, finalement, de la création qui procède de la parole. Et j'aimerais citer à ce propos le philosophe chrétien Bertrand Vergely, qui est auteur du livre « La destruction du réel ». Je crois l'avoir déjà cité lorsque nous avions eu un précédent échange, qui dénonce les trois dernières folies majeures de l'homme fait Dieu, folies qu'il assimile à trois névroses qui sont finalement les sources de la déconstruction. La première névrose, c'est la névrose à l'égard du réel, avec l'avènement d'un monde virtuel qui engendre le corps déconnecté de tout ancrage à la réalité. La seconde névrose, c'est celle de la dimension relationnelle, une névrose nous connectant au monde sans être relié à la table du prochain. Et puis la troisième, c'est la névrose à l'égard de naître, ce qui se traduit par les nouvelles parentalités et qui touchera demain la dimension d'une fécondation artificielle, faisant rencontrer dans un futur moins improbable le désir et la technique et donnant naissance à l'ectogénèse, l'utérus artificiel. Voilà ce que l'on peut dire.
Oui, toutes ces névroses sont l'expression d'une même dissociation de l'être, un corps déconnecté de son milieu.
Oui, une même dénaturation de l'être. Oui. Les évolutions sociétales actuelles sont marquées par les thèses du constructivisme social. Et vous savez, l'expression de ce constructivisme social, c'est Simone de Beauvoir qui finalement le souligne par cette expression, enfin cette citation qui est devenue célèbre, hein. « On ne naît pas femme, on le devient ». Or, dans ce contexte de constructivisme, certaines idéologies postulent la liberté d'indétermination de l'être humain pour combattre les stéréotypes culturels. C'est François-Xavier Bellamy qui dit que la liberté d'être indéterminé, c'est le fantasme de notre civilisation d'aujourd'hui. C'est une vision asexuée qui est très largement répandue chez les idéologues qui défendent finalement la notion de genre opposée à la notion sexuée. Et autrement dit, pour les tenants de cette idéologie, nous ne sommes pas notre corps, ce que nous sommes a été socialement prédit, construit et ne relève que d'éléments de langage culturel, non pas d'une réalité biologique.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors pour nous chrétiens, évidemment, notre identité d'homme et de femme, c'est un donné intentionnel, un marqueur divin. Notre nature est déchue. Et de fait, celle-ci, dans cette nature déchue, eh bien, nous renvoie à une dimension d'altération. Altération, c'est-à-dire que finalement, parce que nous sommes dissociés de notre Créateur, c'est notre nature qui est altérée. Et donc nous avons besoin de restauration, nous avons besoin de guérison, nous avons besoin de retrouver notre vraie identité en Christ. Or, avec cette rupture d'un Dieu Créateur qui nous a donné, je dirais, son image, eh bien, il y a cette volonté évidemment de gommer ce qui a été laissé comme marqueur pour nous tous. Ouais, et je rejoins un peu ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2,14, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc on peut comprendre que c'est spirituellement que nous avons été conçus et faits. Et aujourd'hui, on voit le rejet de cette nature finalement posée par Dieu, donné par Dieu, se donner finalement de la création. Alors nous comprenons le refus de fait de cette altérité, le rejet de cette altérité sexuée qui forme finalement ce changement de paradigme. Cette révolution anthropologique est un des aspects de la postmodernité qui d'ailleurs a été traité et largement abordé par ce philosophe que je citais précédemment, Shmuel Trigano, qui parle de la postmodernité. Et donc, on voit bien que toute la conception biblique, qui est fondée sur l'approche essentialiste, elle s'oppose à cette vision nominaliste.
Votre propos concernant l'indétermination m'évoque celui de cet écrivain Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Et cette thèse, en fait, est-ce qu'elle rejoint une forme de liberté opposée à toutes les formes de contingent social qu'il a décrit,
oui,
que la théorie constructiviste décrit?
Oui. Alors le propos de Simone de Beauvoir illustre bien cette dimension sociale, hein, qui, selon elle, prédit en quelque sorte ce que nous serons. Et de fait, elle milite, comme vous l'indiquez, contre toutes les contingences sociales qui interfèrent sur la construction de nos identités. Simone de Beauvoir convoque finalement la thèse marxiste de la dialectique du maître et de l'esclave pour décrire une forme à la fois d'oppression, de domination masculine, de pouvoir exercé par les hommes sur les femmes, et in fine, nous comprenons mieux les motifs du mouvement féministe en lutte avec la domination masculine. Bon, je reviens tout à l'heure à mon propos sur le livre de la Genèse, sur la complémentarité, sur le fait que nous soyons, finalement, que la femme est issue de l'homme. Au fond, Dieu n'a pas créé un homme à part et une femme à part. Non, il les a fait totalement semblables en faisant qu'ils soient extraits de la côte d'Adam. Vous comprenez ? Et donc il n'a pas créé finalement deux identités à part, c'est bien deux identités semblables. Mais Dieu a voulu une complémentarité parce qu'il manquait quelque chose à l'homme. L'homme n'était pas complet.
Oui, l'homme a été créé à l'image de Dieu.
Ouais.
Et Dieu a un côté masculin, un côté féminin, même si c'est contre les théories actuelles.
Ouais.
Et donc quand Dieu a séparé, si je puis dire, a créé la femme, il a enlevé le côté féminin pour en faire un être humain. Le côté féminin de l'homme.
Oui.
Parce que l'homme était lui-même homme et femme. C'est écrit dans Genèse.
Oui, c'est un être androgyne, en quelque sorte.
Ça.
Mais il lui manque quelque chose.
Tout à fait. Et donc, Dieu l'a séparé, a séparé, fait cette séparation et a donné naissance à la femme, qui est le côté féminin de l'homme.
Absolument. Tout à fait.
Voilà. Et donc, ils sont extrêmement complémentaires.
Ils se rejoignent, ils s'attirent.
Absolument.
Et s'attirent, de fait.
Absolument.
Donc, ils ce ne sont pas deux natures à opposer. Ce sont deux natures qui doivent, je dirais, vivre une réconciliation.
Et ce n'est pas un effet de miroir narcissique.
Non.
C'est un effet de miroir sur la différence.
Dans
la différence. Et ça crée en fait.
Oui.
C'est un effet créatif, cette différence.
Et contrairement à ce que dit Simone de Beauvoir, l'homme n'est... Évidemment, du fait de la chute, hein, de la transgression de l'homme, il a pu être habité par une conscience ou une inconscience dominatrice vis-à-vis de la femme. Ça, c'est vrai. Il y a eu des sociétés où l'homme, finalement, était dans une situation où il voulait imposer sa force, en quelque sorte. Alors que l'enjeu ou l'objectif serait plutôt de nous réconcilier dans notre nature, une nouvelle nature, une nouvelle identité en retrouvant notre identité originelle. Or, nous ne sommes plus dans cette identité originelle puisqu'elle est complètement altérée par la dimension du péché. Donc il faut revenir finalement au vrai sens ontologique qui caractérise l'homme et la femme comme deux personnes qui sont côte à côte.
Exactement.
Ensemble, une même chair, comme l'écrit la Bible, la thèse de Simone de Beauvoir.
Oui, par rapport à la thèse de Simone de Beauvoir, est-ce que vous pouvez approfondir cette forme de liberté qui est opposée à toutes les formes de contingent social,
Oui. Oui, et en réalité, Laurence, cette obsession de liberté, elle finit paradoxalement par nous murer. Elle nous évite d'entrer dans cette relation incarnée, de cette relation à l'autre. Elle se traduit par un refus implicite de la différenciation. On est de plus en plus d'ailleurs dans un monde virtuel où les connexions sont faites virtuellement, mais on n'est plus dans cette rencontre. J'ai même entendu un jeune homme, la fin dernière, qui est en quelque sorte addict avec les écrans et qui n'a pas rencontré la personne féminine dans sa vie et dans son existence, et qui me dit « j'ai peur de rencontrer la femme ». C'est quand même inquiétant. voilà, il a besoin, je dirais, de se retrouver dans la dimension du réel pour construire sa propre identité. On ne construit pas son identité dans le monde virtuel, dans le monde des réseaux sociaux. Et à force d'être dans les réseaux sociaux, on se déconnecte de la vraie vie, de la vie qui nous conduit à nous rapprocher, à aller vers le prochain. Et dans ce contexte qui est dénoncé par cette philosophe Simone de Beauvoir, nous vivons, je crois, une immense bizarrerie. Un monde qui court vers l'uniformisation, vers l'indifférenciation, qui gomme les frontières, qui atomise les relations, qui déstructure les solidarités, qui déconstruit cette rencontre du prochain. On est dans le syndrome de Babel. Rassemblons-nous dans la même ville, sur le même continent virtuel. Et dans ce continent virtuel, nous sommes alors comme tentés de nous enfermer dans nos propres univers, à ne plus incarner une relation réelle, dans un monde réel, qui est caractérisé par le face-à-face fécond, par le face-à-face fertile qui engendre la vie.
Et alors donc, quelles sont les autres formes extrêmes de l'indétermination remettant en question l'identité de l'homme et de la femme?
Ouais. Alors nous allons parler effectivement d'une idéologie. C'est toujours cet aspect culturel que nous soulignons, qui est l'approche queer, qui est un combat contre l'essentialisme, qui est dominé selon ces idéologues, par une vision hétérosexuelle. Alors, disons quelques mots sur le mouvement queer, parce que vos auditeurs ne connaissent pas ce mouvement. Il est né aux USA, c'est un courant idéologique qui visait à lutter contre l'hétéropatriarcat. Alors, ce sont des femmes lesbiennes qui voulaient en quelque sorte sortir de la communauté homosexuelle blanche, middle class. Voilà. Et ces femmes qui se sont inscrits dans cette idéologie, elles vont dénoncer tous les procédés oppressifs du patriarcat. Et le queer, donc l'idéologie queer, entend construire ce qu'on appelle la post-humanité, la post-société, le post-patriarcat. Alors on comprend bien ce que veut dire le post-patriarcat, c'est-à-dire en finir à jamais avec les représentations de l'homme dominant, de l'homme mâle, en quelque sorte. Alors, pour résumer les principes idéologiques de cette philosophie queer, pour les tenants de cette idéologie, les modalités du masculin et du féminin sont de fait de pure fiction, qui résultent de construction d'un discours qui a été dominé par cette vision hétérosexuelle. Donc le genre, c'est-à-dire l'identité sexuelle, elle est fondée sur un binaire masculin-féminin et qui est complètement remis en cause, dénoncé par l'idéologie queer. Donc ils ne sont même pas d'accord avec les idéologues qui ont travaillé sur la dimension du genre. Donc l'approche queer, elle refuse l'enfermement des sexes dans de nouvelles catégories identitaires qui pourraient perdurer socialement et dans le temps. Et j'allais dire que le queer, c'est du fétichisme quasi-sexuel, c'est-à-dire qu'en fait, l'individu est considéré comme un sujet, d'accord ? Un sujet qui est uniquement un sujet sexuel, et peu importe finalement l'identité homme ou femme, on est dans le bizarre, c'est-à-dire que dans cette idéologie, je peux avoir des rapports autant avec les hommes qu'avec les femmes, je sors, je dirais, de la construction binaire homme-femme. Donc je sors y compris de, j'allais dire, d'une vision homosexuelle, en quelque sorte. On est dans une approche où le sujet, l'individu, ne devient finalement qu'un objet de sexualité. Donc voilà le côté bizarre de l'approche qui caractérise l'idéologie queer.
Et quelles sont, selon vous, les conséquences identifiées de l'indétermination?
Oui. Alors, cette révolution anthropologique, elle s'inscrit dans une révolution ou une réinvention civilisationnelle, une réinvention de la nature. Et ça touche à l'identité de la femme et ça touche à celle de l'homme, à la figure de l'homme. En fait, dans l'identité de la femme, c'est la perte du pouvoir maternel. Je vais y revenir dans un instant. Et la disparition de la figure du père. Dans la perte du pouvoir maternel, c'est l'incitation de la femme à devenir n'importe quel homme. Et finalement, ça ôte à la femme toute dimension qui touche à sa propre altérité, sa différence. Il en résulte alors pour la femme une perte de complémentarité, une perte des fonctions qui permettent l'imbrication harmonieuse des identités hommes et femmes. Et concernant la disparition de la figure du père, eh bien, le père, la fonction du père, qui est de séparer l'enfant de la mère, qui s'interpose en quelque sorte entre la mère et l'enfant pour permettre à l'enfant de développer son identité en dehors de la symbiose maternelle, c'est une fonction qu'il n'aura plus, de fait, de facto. Donc c'est un chamboulement sur le plan culturel qui se prépare, et l'homme n'aura plus ses fonctions de donner des limites, des frontières, de séparer psychologiquement cette dimension fusionnelle entre l'enfant et la mère. Donc on voit bien, je dirais, que la perte du pouvoir maternel et la disparition de la figure de la mère peuvent, de fait, engager un réajustement des relations et un déséquilibre de ces relations entre hommes et femmes, une perte totale des repères.
Précédemment, vous évoquiez les réalités biologiques de la différenciation homme et femme. Donc, un conflit entre le réel et l'idéologie, la nature et la pensée déconnectées de toute réalité. Pouvez-vous nous donner un exemple frappant qui touche à cette dimension biologique incontestable et qui font qu'un homme est un homme et une femme une femme ?
Ben oui. Alors, ce sont des exemples frappants qui sont non contestables et qui nous renvoient à la dimension du réel. La femme, elle se caractérise dans ce rapport utérin entre la mère et l'enfant. C'est pas le père, l'homme, qui a un rapport utérin entre la mère et l'enfant. C'est quelque chose qui est de l'ordre du mystère. Combien de femmes sont heureuses, s'épanouissent dans la maternité, et ce rapport et cette relation intime mère-enfant, elle va marquer existentiellement l'enfant dans la mémoire prénatale, qui va avoir des prolongements sur son existence. Si l'enfant, je dirais, est coupé de ce rapport utérin, eh bien, ça va avoir des effets et des conséquences psychologiques qui sont indéniables. Quant à l'homme, qui est doté de testostérone en quantité plus importante que la femme, eh bien, ces hormones agissent sur son humeur, sur sa virilité, sur son comportement, sur sa manière différente de se conduire dans la société. Il y a une volonté de conquête qui tient en grande partie à cette dimension du fait que l'homme ait davantage de testostérone en quantité plus importante, comme je le disais tout à l'heure, comparativement à la femme. Voilà, ce sont deux réalités biologiques. Et comme nous l'écrivions avec Alain Ledin, qui est le co-auteur du livre « Masculin-féminin, faut-il choisir ?», la féminité et la masculinité demeurent des principes nécessaires à la construction de l'enfant, à la formation de sa personne, dans une vision de l'acceptation de la différence. Comment faire accepter la différence à un enfant si on ne lui apprend pas la différence entre un père, une mère, entre un homme et une femme ? Eh bien, la différence, elle se vit au travers des échanges avec son enfant. La différence, elle entretient le respect, elle entretient l'esprit fécond, elle entretient la fertilité, elle entretient la créativité. Tandis que l'indifférenciation atténue les potentialités d'enrichissement. La différence sexuelle participe à la construction de la personne, non en opposition, mais en rencontre nécessaire à notre humanité.
Quelles sont les conséquences bioéthiques ?
Oui. Nous sommes, Laurence, à l'aube de bouleversements et de nouvelles transgressions. Et nous allons devoir, dès aujourd'hui, considérer les conséquences bioéthiques du fait de ces disruptions morale, culturelle, et des disruptions techniques qui vont suivre, puisque finalement, les disruptions techniques ne sont que la rencontre des désirs et de la technicité, et qui participent finalement à la déconstruction de l'homme. De moins en moins, le postmodernisme parle de morale. Le postmodernisme a remplacé le mot morale par le mot éthique. Ce sont les nouveaux éléments de langage qui nous convient plutôt à utiliser cette manière d'approcher finalement ce qui n'est pas un curseur mais un régulateur. L'éthique n'est plus vue aujourd'hui comme un curseur face à la montée des fantasmes, mais davantage comme un régulateur. Et dans l'attente que s'installent dans les mentalités, les dispositions sociétales permettant l'avancée de la folie technique. Alors, vous savez, le comité consultatif national d'éthique dit ceci, et reprend ce que je viens de dire dans mon propos. Notre société exprime les usages qu'elle veut privilégier et ceux qu'elle entend bannir. Alors, la procréation médicale assistée ou la gestation pour autrui sont les prémices d'une avancée de la technique qui vient au secours des desiderata sociétaux. Notre société exprime les usages qu'elle veut privilégier et ceux qu'elle entend bannir. Donc, vous comprenez qu'on n'est plus, et je reviens sur mon propos pour bien insister sur cette dimension-là, on n'est plus dans l'aspect curseur, mais bien régulateur. Finalement, il faut que les mentalités aient évolué pour qu'éventuellement on fasse avancer la technicité. Donc l'éthique n'est plus un curseur, l'éthique n'est plus une limite qui est fixée, qui est donnée. C'est-à-dire que vu les avancées sociétales, culturelles, eh bien on va autoriser à la technique d'avancer encore davantage et davantage pour transformer finalement, ontologiquement, l'être humain, pour en quelque sorte déconstruire les représentations qui étaient celles du passé que l'on veut dénoncer. Or, il est plus que jamais nécessaire de comprendre le sens et les avancées de la technoscience, sauf demain à se retrouver dans la situation de ces nations qui s'effondrent faute d'avoir eu à leur tête des sages, mais des fous qui n'ont gouverné en étant seulement les miroirs des opinions de leur peuple. Et je veux citer Jérémie et Romains 22. Alors j'enchaîne sur les deux versets parce que je trouve que c'est riche de sens. Tout homme devient stupide par sa science, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Donc j'ai cité respectivement Jérémie 10, verset 14, Romains 1, verset 22. Tout homme devient stupide par sa science, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous.
Point d'orgue. Merci.
Merci beaucoup.
Merci Eric.
Merci à toi Laurence, et je dis toi, on se connaît bien. Puis on a choisi, je dirais, la dimension de la relation, de la relation humaine que l'on veut mettre en avant et au-delà, je dirais, de l'aspect formel. Moi, j'aime beaucoup, effectivement, cette dimension qui casse les codes, qui sort des normes et qui met en avant, finalement, la rencontre avec l'autre, oui. Juste pour interpeller, finalement, nos auditeurs qui ont besoin de comprendre, finalement, de quoi il s'agit, de quoi il en retourne concernant ces transformations qui vont intervenir dans l'ensemble de la société. Voilà, ce n'est pas... Je ne fais pas de politique ici, ce n'est pas du tout mon propos. C'est simplement éveiller nos consciences, interpeller nos consciences pour que nos propres consciences soient finalement des barrières par rapport à cette déconstruction qui est aujourd'hui celle qui nous est proposée. C'est vrai. Et en l'occurrence, bien là, il s'agit, dans l'exposé qui était le nôtre, de proposer un contrepoids par rapport aux idéologies culturelles qui sont en train de formater, de lobotomiser les esprits humains.
Merci beaucoup, Eric.
Je vous en prie.
À une prochaine émission.
Et je t'en prie.
Merci.
Et je te dis à bientôt.